Vous écoutez Art District et tout de suite la chronique Muse et Mécène d'Anne Serin-Reil vous fait découvrir des hommes et des femmes qui ont marqué à leur manière l'histoire des arts.
Mysias Serre, surnommée la Reine de Paris, est l'une des femmes les plus courtisées de la Belle Époque. Pianiste au talent reconnu, gracieuse et séduisante, elle devient l'égérie de nombreux peintres, poètes, musiciens. Mysias Serre, de son vrai nom Marie-Sophie Godemska, est née en 1872 à Saint-Pétersbourg, dans une famille d'artistes. Son père était sculpteur et sa mère était la fille du violoncelliste virtuose Adrien François Servet. À la mort de sa mère, Mysia est élevée par le couple Servet à Halle, en Belgique. Elle eut une jeunesse dorée, au milieu des artistes et des musiciens. Grieg a donné Peer Gynt dans le salon familial et elle aurait joué du piano sur les genoux de Franz Liszt. À l'âge de 20 ans, elle rejoint son père à Paris et travaille le piano avec Gabriel Fauré. Ce dernier lui adresse des élèves, ce qui lui permet de prendre son indépendance. En 1892, elle donne son premier concert en public. En 1893, elle épouse Thaddée Nathanson, le fondateur de la Revue Blanche. Avec lui, elle rencontre le tout Paris. Sa grâce et son charisme font le reste. Les hommes l'adorent. Mallarmé vient souvent chez elle, écouter cette « dompteuse de piano » comme il l'appelle, jouer Beethoven et Schubert. Mysia reçoit dans son salon de la rue Saint-Florentin ou dans la propriété que le couple acquiert près de Valvin. Le prince Poniatowski, Octave Mirbeau, Colette, Métarlinck, Zola, Jarry, Gide, Claudel, Apollinaire, Proust, les peintres Vuillard, Bonnard, Odilon Redon, Sisley, Pissarro et bien d'autres lui rendent régulièrement visite. Elle devient le modèle des plus grands peintres de l'époque. Toulouse-Lautrec, Bonnard, Odilon Redon, Vuillard, Vallotton et surtout Renoir qui la représentera plusieurs fois, notamment dans un célèbre portrait daté de 1904 intitulé « Portrait de Madame Nathanson » exposé à la National Gallery de Londres. Elle aurait été la femme la plus portraiturée du siècle. Des difficultés financières se font sentir et lorsqu'Alfred Edwards, le fondateur du Matin et richissime homme d'affaires, emploie sa fortune et son pouvoir pour la conquérir, Mysia finit par céder. En 1905, après un divorce douloureux, elle épouse Edwards. Dès lors, elle reçoit chez elle ou sur le yacht qu'il a acheté pour elle. Debussy, Stravinsky, le danseur étoile Nijinsky, Laurent Saint, les chorégraphes Nijinska sont de la partie. Elle utilise sa fortune pour soutenir leur création et porter leur projet. En 1909, elle fait la connaissance de Serge Diaghilev, le créateur des ballets russes. Une amitié profonde les unit et elle le soutiendra toute sa vie. Mysia mettra ses ressources et ses relations pour l'aider à monter le ballet Parade, inspiré du poème de Jean Cocteau. Éric Satie composera la musique et Picasso créera les costumes. Ses talents de pianiste ont particulièrement touché Maurice Ravel. Selon une thèse récente, il aurait transcrit les noms Mysia et Godemska en deux groupes de notes musicales qu'il aurait utilisées constamment dans sa musique. Il lui dédiera le cygne et la valse. D'autres musiciens saluent son talent et la remercient de son soutien. Éric Satie lui dédie les morceaux en forme de poire et Igor Stravinsky lui offre une partition annotée du Sacre du printemps. En effet, Mysia est intervenue pour sauver l'œuvre d'un indélicat qui souhaitait qu'elle soit édulcorée. La dernière découverte de Mysia en 1917 fut Coco Chanel. C'est elle qui poussa la modeste modiste de province pour en faire la reine de la mode. Coco Chanel lui resta toujours fidèle, appelant Mysia la seule femme de génie que j'ai rencontrée. On leur prêta même une liaison. Lorsque la Grande Guerre éclate, Mysia décide de former un convoi d'ambulance pour venir en aide aux blessés. Cet épisode montre l'ambiguïté de cette femme étonnante. Toute sa démarche est clairement mise en scène et dûment photographiée par les journalistes. Elle visite les lignes arrière avec Cocteau et d'autres amis dans des tenues créées par de grands couturiers. Rien ne l'arrête et la presse suit. Mysia fut dans Reims sous les premières bombes. Elle se promena sous la mitraille et dans les flammes, écrit le peintre Jacques-Émile Blanche dans ses mémoires. Paul Morand, dans Venise, la décrit ainsi. Mysia, effervescente de joie et de fureur, originale et emprunteuse, récolteuse de génie tous amoureux d'elle, collectionneuse de corps et d'arbres Ming en quartz rose, lança ses lubies devenues des modes aussitôt exploitées. Misia, reine du baroque moderne, Misia boudeuse, artificieuse, géniale dans la perfidie, raffinée dans la cruauté, elle excitait le génie comme certains rois savent fabriquer des vainqueurs. Forte comme la vie chevillée en elle, avare, généreuse, enjôleuse, brigande, subtile, commerçante, plus Madame Verdurin que la vraie, prisant et méprisant hommes et femmes du premier coup d'œil. Cocteau, qui lui prêtait une poigne de chatte, en fait l'héroïne de Thomas l'imposteur et des monstres sacrés. Gide l'a raconté dans son journal et Marcel Proust l'a incarné dans La princesse Yourbel-Étief de Sodome et Gomorre. Et il écrit « Et quand, avec l'efflorescence prodigieuse des ballets russes, révélatrice coup sur coup de Bakst, de Nijinsky, de Benoît, du génie de Stravinsky, la princesse Yourbel-Étief, jeune marraine de tous ces grands hommes nouveaux, apparue portant sur la tête une immense aigrette tremblante inconnue des Parisiennes et qu'elles cherchèrent toutes à imiter, ont pu croire que cette merveilleuse créature avait été portée dans leurs innombrables bagages et comme le plus précieux trésor par les danseurs russes. » En 1920, Misia épouse José María Serra, un artiste peintre et décorateur catalan, mondialement connu pour ses fresques monumentales. Elle joue sur ses relations pour lui trouver des commandes. Clotel lui confie la réalisation du rideau de scène du soulier de satin. Ce mariage ne sera pas heureux non plus, et Misia sera abandonnée pour une jeune actrice. Elle continuera cependant à le soutenir jusqu'à son décès en 1945. Après avoir mené une existence flamboyante, connue des années de triomphes éclatants, Misia acheva sa vie dans une grande solitude. Aveugle, affaiblie par la morphine, sa beauté disparut. Ce fut Coco Chanel, avec qui elle fut très liée, qui recueillit son dernier souffle en 1950. Elle repose près de Valvin, dans le même cimetière que Mallarmé, son voisin et ami d'antan. Il est des femmes dont le talent ne fut pas de créer elles-mêmes, mais de susciter chez les plus grands artistes des œuvres inoubliables. Misia Serra en fait partie. Le musée d'Orsay lui a rendu hommage en 2012 en réunissant les nombreux portraits et œuvres d'art qu'elle a inspirées. Christian Siméon crée en 2013 une pièce la mettant en scène dans La Vénus au Facochère avec Alexandra Lamy. De toute évidence, elle inspire les artistes encore aujourd'hui.
C'était Muse et Mécène, la chronique d'Anne Serin-Reil sur Art District. À retrouver tous les mardis et jeudis à 7h30 et 13h30.